On vous a distribué les livres de Devarim et le texte principal auquel il faut se référer pour le sujet que nous avons à traiter, c'est le chapitre 30 du livre de Devarim, la paracha de Nitzavim. Et d'ailleurs, l'ordonnance du calendrier fait que c'est la paracha qu'on lit le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. On n'avait pas calculé cela, mais enfin, c'est le Shabbat de cette semaine, d'ailleurs, de la semaine dans laquelle nous sommes. Alors, si vous pouvez avoir sous les yeux ce texte, et en particulier pour un problème que nous allons toucher immédiatement, un verset dont je vais vous donner la référence, le verset 11 du chapitre 30. Alors, vous êtes dans le chapitre 30, c'est la même. Dans la paracha de Nitzavim, verset 11, Yud Alef, nous aurons besoin de ce verset tout à l'heure. Bien, alors je vais essayer de diviser l'exposé de ce soir en deux parties. C'est-à-dire, nous allons essayer de travailler dans la première partie, nous allons essayer de travailler à peu près trois quarts d'heure, une heure, et ensuite on aura une petite apsaka. Et la deuxième partie, une demi-heure comme cela, sera consacrée aux questions et éventuelles réponses, si vous avez des questions d'ailleurs sur l'ensemble du séminaire. Alors vous avez déjà eu deux exposés de ces Shmuel qui s'appellent, de Shmuel Vigoda. Le premier qui portait sur les halachot, je veux dire la forme pratique de la conduite du repentir, du retour, tshuva. Et le deuxième, où Shmuel a posé la question de savoir comment la tshuva était possible. Et je n'ai pas écouté le premier enregistrement, mais j'ai écouté une partie du deuxième en tout cas. Alors je vais me baser très rapidement en introduction sur l'articulation du deuxième exposé, de laquelle je sortirai pour l'exposé de ce soir. C'est-à-dire, si vous en souvenez, ceux qui ont participé donc à ces études, la question qui se posait était que par rapport à la conception que je pourrais appeler naturelle du problème moral, l'idée de la possibilité même de la tshuva est une idée invraisemblable. Et j'essaierai d'expliquer cela de nouveau tout à l'heure. Il y a une difficulté pour l'esprit humain livré à son fonctionnement naturel, d'admettre l'éventualité, la possibilité même, que s'il y a eu faute, il puisse y avoir réparation de la faute. Retour. Retour au point d'où on avait dévié de ce qu'on appellerait Derech HaYeshara, la voie droite. Vous avez eu tout un ensemble de notions, d'ailleurs, déjà dans le premier cours, dans le deuxième, d'autre part, vous avez étudié ça et là. Par conséquent, je ne reviens pas sur les notions de base, mais si c'est nécessaire, dans la deuxième partie, on pourra, le cas échéant, à travers telle ou telle question, revenir sur ces problèmes. Simplement, je rappelle que la racine d'où vient le mot de teshuva, et qu'on traduit par repentir, signifie essentiellement retour. Il y a différents niveaux d'expression possibles, des harmoniques de sens, mais fondamentalement, cela signifie le fait de revenir à l'endroit d'où on avait dévié. Et nous verrons tout à l'heure, un peu plus en détail, que la notion de teshuva se heurte au moins à deux obstacles. Pour, encore une fois, le fonctionnement de l'esprit humain livré à ses forces naturelles, c'est-à-dire non éclairé par une révélation, que c'est possible, que la teshuva est possible. Comme nous nous posons le problème à un moment culturel qui vient après un très long temps d'éducation biblique ou d'imprégnation de l'enseignement biblique dans la culture générale, surtout dans les régions où nous vivons, je veux dire en Occident, alors il nous semble qu'il y a une évidence de la possibilité de la tshuva, parce que nous sommes habitués à une certaine éducation. Mais si on prend le problème à l'origine, à la racine, alors on comprend qu'il y a là, et ça sera le sujet de mon propre exposé ce soir, un chidouche, quelque chose de nouveau qui apparaît avec l'enseignement de la Torah, et j'essaierai de le baser sur un certain nombre de textes convergents d'ailleurs avec ce qu'avait choisi Schmuel pour son propre exposé, que quelque chose de radicalement nouveau apparaît dans l'histoire de la culture humaine lorsqu'on a admis la possibilité de la tshuva. Encore une fois, je reprends cela très simplement, et cela est vrai pour beaucoup de sujets. Nous sommes tellement familiers à certaines notions, par la suite de ce que j'ai appelé cette imprégnation de l'éducation biblique, que parfois nous ne percevons plus le caractère du chidouche, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais de renouvellement absolu, de quelque chose de nouveau qui apparaît dans la conscience humaine et qui ne pouvait pas surgir des conditions naturelles de la pensée humaine. Sinon, par hypothèse, les grands philosophes grecs ont envisagé ces hypothèses bibliques, mais les ont rejetées comme invraisemblables. Le mot, d'ailleurs, en grec, je m'échappe, mais ça voulait dire délirant. Les Grecs, rencontrant le judaïsme, en fait l'hébraïsme, l'ont défini comme étant du délire. Par rapport aux données de la pensée naturelle, cette notion en particulier, mais ça vaut pour beaucoup d'autres notions qui nous semblent familières dans notre vie spirituelle, elle apparaissait comme absolument délirante. Peut-être pour vous montrer à quel point il y a là un sujet pour lui-même qui est très important, ce que fait qu'effleurer, je reviens à la cheval tout de suite, mais un petit exemple qui est l'exemple que les grands théologiens du Moyen-Âge avaient l'habitude de donner pour expliquer à quel point le développement de ce qu'a été le message de la prophétie, confronté à ce qu'a été l'intuition de la philosophie, il y a là, si vous voulez, un dialogue de souris. Non, je m'exprime mal, mais enfin, il y a là une impossibilité de communication. Parce que les postulats même de l'univers culturel sont différents. Et encore une fois, lorsque nous nous situons après un très long temps culturel, alors nous ne sommes pas toujours suffisamment avertis des prémices du problème, parce que nous sommes handicapés par cette familiarité qui se fait prendre pour de l'évidence. Par exemple, pour la notion de création, les premiers philosophes grecs ont repoussé absolument énergiquement, comme blasphématoire, l'idée de la création du monde par Dieu. Je veux dire, même les philosophes qui ont admis l'idée qu'il existe un être parfait, et en général c'est ainsi que les philosophes définissent, il lui dénie en tout cas l'attribut, la définition de créateur qui est le premier enseignement de la Bible. La première chose que nous savons de Dieu, c'est qu'il est le créateur du monde où nous vivons. Et pour les premiers philosophes, c'était un blasphème de dire cela. Et je vais essayer de le montrer très simplement. Il y a un tel contraste entre l'imperfection du monde et la perfection de l'être à qui on attribuerait ce monde que c'est blasphématoire de dire que lui a créé cela. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez bien que pour s'approcher de ces catégories, de ces contenus spirituels, il faut d'abord se remémorer cela, c'est qu'il faut faire abstraction, mettre entre parenthèses cette familiarité qui vient de l'éducation, de la diffusion, de l'imprégnation biblique, pour prendre les problèmes à sa racine. De la même manière, le philosophe grec, et je parle des grands, des premiers, refusera comme absolument aberrante la notion de Teshuvah, que s'il y a eu faute, il puisse y avoir repentir, expiation, annulation, restauration, pardon de la faute. Et encore une fois, pour deux obstacles, pour deux raisons. D'abord, un obstacle proprement logique. Et deuxièmement, un obstacle moral. Un obstacle moral qui vient des évidences de la conscience légaliste de la moralité. Parce que c'est injuste. Et oui, une morale philosophique ne pourra pas intégrer une notion comme le repentir. C'est injuste. La loi est dure, mais c'est la loi. S'il y a eu faute, il y a eu faute. C'est irréversible. Socrate a vu la ciguë, c'est irréversible. Et donc, encore une fois, cette notion que nous avons essayé d'approfondir nous apparaît comme un chidouche de la Torah. Alors, je reviens sur le plan de ces trois exposés. D'abord, vous avez eu un premier exposé sur le comportement de la tshuva, comment ça se réalise dans les différentes étapes, regret de ce qui s'est passé, prise de conscience et aveu, ce qui est peut-être le moment le plus important, le plus difficile dans la tshuva, c'est l'aveu, le bidouille, et l'aveu doit être fait à voix haute et devant témoin. Et puis, je prends que trois moments principaux des cinq moments que citent en général les théologiens, mais ça nous mènerait trop loin de reprendre ces analyses, vous les avez eues, je suppose, et l'engagement pour le futur. Mais l'idée même qu'on puisse restaurer un état de virginité de la conscience après la faute va apparaître comme un scandale pour la pensée naturelle. Et déjà, dès la description du processus, on s'aperçoit qu'on est dans le monde de la pensée prophétique qui est délirante pour la pensée philosophique. Je pense que c'est clair. Ensuite, donc, Shmuel avait posé la question, comment la tshuva est-il possible ? La réponse qu'il a analysée à travers un texte de base de ce problème, qui est le texte de la Maseret Brachot du Talmud Yerushalmi. On a demandé à la sagesse, celui qui a fauté, quel est son statut, vous vous rappelez de cela. C'est que Dieu seul peut garantir que la tshuva soit possible. Tant qu'on est dans le monde livré à ses propres forces, et quels que soient les niveaux de valeur du monde, le monde du déterminisme absolu que connaît la sagesse, il faudrait dire la science, ouais, le monde de l'intériorité des consciences que connaît la prophétie, le monde de l'ordre du monde que connaît la Torah, eh bien, il n'y a encore pas de fondement définitif à la notion de tshuva. Elle reste hypothèse invraisemblable, pour les raisons que je viens de dire. Il y a d'abord une impossibilité naturelle, notre temps est irréversible, on ne revient pas en arrière, et voilà pourtant que ça se dit comme ça en hébreu, revenir en arrière pour restaurer ce qui avait été dérangé, dévié, dévoyé. Et d'autre part, le scandale moral pour une conception de la loi qui serait impersonnelle. On ne viole pas un théorème de mathématiques. Une fois que le théorème de mathématiques a été violé, il ne peut pas être restauré. La locomotive qui aura été construite sur ces données-là ne marchera pas, le frigidaire non plus. Vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et donc, finalement, dans ce texte du Talmud, comment la tshuva est-elle possible ? C'est parce que nous sommes en présence de quelqu'un. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il se repente, c'est comme ça qu'on traduit en français, il y a assez de tshuva, qu'il fasse retour, cette chose invraisemblable à la pensée naturelle, veit kaper, et il sera expié, pardonné. Et vous avez donc en tête ces deux points des deux analyses que vous avez eues précédemment. Et alors, je vais donc aborder le sujet de ce soir, qui est un troisième niveau du même problème, essayer de comprendre plus profondément le chidouche que représente pour la Torah, et à travers la Torah, le fait que la tshuva soit possible. Si j'avais le temps, et je crois pas que j'aurais beaucoup de temps ce soir, en fait, jusqu'à l'extinction des voix, si j'avais le temps, nous aurions là un sujet parallèle très important, de voir que c'est sur ce problème déjà que la pensée chrétienne s'est séparée du judaïsme. Et qu'il y a là un fossé radical. Et on a refusé la loi parce qu'on ne pouvait pas envisager que l'homme, par ses propres vertus, par ses propres forces, de sa propre initiative, par ses propres mérites, pouvait réparer ses fautes. Étant donné qu'on ne pouvait pas admettre cette idée de la tshuva, parce qu'on fonctionnait en grec, à l'origine du christianisme. Et même si c'est sorti d'un milieu originellement juif, nous avons maintenant l'expérience de ce que c'est que des communautés juives déjudaïsées, qui vont à la synagogue mais ont appris à l'université grecque et sont d'imprégnation de culture grecque. Et par conséquent, d'ailleurs dans une schizophrénie spirituelle qui est le propre des juifs en général lorsqu'ils sont déjudaïsés, Et qu'on ne pouvait pas admettre cette éventualité de la tshuva, et par conséquent que c'était trop dangereux, impossible d'accepter la loi comme condition du salut. Puisqu'à la première faute, on serait condamné. Les chrétiens disaient damné. puis, comment la première faute condamnée? Est-ce qu'on ne peut pas faire tchouva? Non, justement, on ne peut pas faire tchouva. Ça n'existe pas, c'est une folie des juifs. Vous voyez, il y a là deux mentalités radicalement différentes. Est-ce que c'est clair? Et ça s'accroche au premier récit du repentir que nous donne la Torah, et qui est celui de Caïn. Vous recodez avec ce que vous avez suivi dans les autres exposés. Hein. Nous savons que Adam Arishon a fait aussi tchouva, mais il l'a fait après la tchouva de Caïn. Or, il y a deux moments dans cette histoire de la tchouva de Caïn. D'abord, Caïn part en chrétien, orthodoxe, si j'ose dire, en disant « Je suis perdu, ma faute ne peut pas être expiée. » Et puis, en fin de compte, à travers l'expérience du sursis, qui est l'expérience la plus étonnante dans cette problématique, le fait qu'une faute ait été faite et que la sanction n'arrive pas tout de suite, qu'il y a sursis. Du dedans de cette expérience du sursis, alors, en fin de compte, il y a cette éventualité de la tchouva. Caïn fait tchouva, nous reverrons ce texte, et c'est extraordinaire de voir que le Midrash qui en parle, nous allons voir ce texte immédiatement, parle d'abord d'un dialogue de, il faudrait dire en français, de compromis, pshara. Et Dieu se révèle à Caïn dans le Midrash, et ils discutent. Finalement, ils arrivent à faire un gouvernement d'union nationale, si je veux dire. un compromis, quelque chose d'apparemment impossible. Pshara, dit le texte. Alors pour ça, il faut discuter avec quelqu'un. Et nous reviendrons toujours au même principe. C'est pourquoi je dis souvent que, quelle que soit la forme paradoxale de cette formule, le christianisme, par rapport au judaïsme, bien sûr, commence par être une religion absolument athée. C'est que dans une mentalité athée qu'on ne peut pas envisager le repentir, parce qu'on est confronté à l'idée impersonnelle de la loi morale, qui est effectivement la mentalité grecque et romaine et latine de la loi morale. C'est-à-dire à la manière d'une loi mathématique, à la manière d'une loi impersonnelle, scientifique. C'est, si vous avez bien compris, je ne sais pas si je me suis expliqué suffisamment clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il y a des principes. C'est ça l'athéisme. Alors c'est très paradoxal ce que je vous dis là. Okay, c'est que dans l'essentiel, le christianisme commence par être une religion athée, une religion d'athée, si vous voulez. Et l'athée, chouva. Mais en tout cas, ça se voit en particulier par le fait que le chrétien, et pour lui, Dieu, ça lui reste trop loin. Il lui faut quelque chose entre Dieu et lui. Le chrétien n'est sauvé que dans son médiateur. Il n'est pas sauvé en Dieu, en langage chrétien. C'est clair ce que je dis. Les théologiens chrétiens ont toujours eu des difficultés énormes à parler de Dieu. Comme s'ils étaient tentés, à la manière de ce que dirait le Kuzari, aller voir chez les Juifs de quoi ils parlent. Okay, eux parlent d'autre chose, ils parlent du médiateur qui a pris sur lui leur faute parce que eux ne peuvent pas aller, parce que l'homme ne peut pas l'expliquer. Vous trouvez Caïn. Okay, je serais tenté peut-être une fois d'écrire un texte pour la revue de l'amitié judéo-chrétienne et qui serait intitulé « Le signe de Caïn ». En tout cas, c'est très réconfortant de voir, ça c'est l'humour biblique, que d'après le récit biblique, le premier qui en fin de compte s'est repenti, c'est Caïn. Et ce n'est que lorsque Adam Arishon a entendu cela, qu'on peut se repentir, que lui-même s'est repenti, et nous allons voir tout de suite, c'est la première partie de l'étude, c'est deux Midrash. Okay, ensuite, s'il nous reste du temps, j'aborderai ce qui me semble, c'est d'ailleurs chaque année, je retrouve ce sujet, qui est très important, et à propos de ce texte de la paracha de Nitzavim, un problème très classique chez les rabbins, qui est la controverse entre Nachmanide et Maïmonide sur le problème de la tchouva, et qui consiste à se demander si faire tchouva, je reviendrai sur l'expression après, rappelez-le-moi immédiatement, mais faire tchouva, il y a assez de tchouva, la asso tchouva, d'après le Midrash, alors qu'aujourd'hui on dit la hazor tchouva. revenir en Tchouva. Bon, c'est pas la peine de le rappeler puisque je l'ai déjà cité. Qu'est-ce que je disais ? Oui, si c'est une mitzvah, une obligation, ou bien si c'est un comportement naturel. Et donc, les versets qui en parlent seraient de l'ordre de la promesse. Et nous verrons que pour Maïmonide, il n'est pas possible de dire qu'il y ait une mitzvah parmi les mitzvot de faire tshuva. Et nous essaierons de comprendre pourquoi. Mais, selon Maïmonide, et je vous dis, il y a une controverse permanente, et jusqu'à nos jours, elle n'est pas close, sur ce fait. Je vous citerai un des plus grands auteurs à ce sujet, contemporain, qui a été l'avant-dernier grand rabbin Ashkenaz de Jérusalem, le Rav Jaloti, qui a écrit un Mahamar, il y a une vingtaine d'années, un Mahamar extrêmement important sur ce problème. Pour Maïmonide, la tshuva est un comportement naturel, et ce que la Torah légifère, ce n'est pas le fait du comportement de tshuva, mais la forme qu'il doit prendre. À quelles conditions la tshuva est authentique? Et l'obligation, pour qu'il y ait authenticité, c'est qu'il y ait aveu. Et pour Maïmonide, l'obligation porte sur l'aveu, et non pas sur le comportement de repentir. C'est bien clair jusque-là? Alors que pour Nachmanide, il y a une mitzvah de dire la tshuva, de faire tshuva. Nous verrons que d'après notre texte, le pshat de la Torah semble être pour Nachmanide, mais la halakha est pour Maïmonide, comme nous le verrons tout à l'heure assez rapidement. Alors, je voudrais commencer par un premier texte du Midrash. Vous allez noter la référence. C'est dans le Midrash Rabbah, parasha, chapitre 1, paragraphe 4. Qu'est-ce que nous avons en mémoire comme définition du sujet? Le chidouche que représente la tshuva dans l'enseignement de la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est-à-dire, et là nous avons un texte qui nous montre que, d'une certaine manière, il y a une intuition profonde que notre monde ne peut fonctionner que s'il y a un certain nombre de conditions préalables, mais une condition préalable qui doit être accomplie, cette condition étant que la tshuva soit possible. Avant de lire le texte, je voudrais essayer d'expliquer le... Nous allons avoir un midrash qui commence par ceci. De cette manière, un certain nombre de choses ont été créées avant la création du monde. En clair, ça veut dire il y a un certain nombre de conditions préalables de possibilité du fonctionnement du monde. Et une de ces conditions, c'est la tshuva. On pourrait mettre cela un peu en équation. La consigne du problème moral n'est pas « voici le bien, voici le mal ». Tu fais le bien, tu es juste, tu es sauvé. Tu fais le mal, tu es méchant, tu es perdu. Mais voici le bien, voici le mal. Et c'est des problèmes pour eux-mêmes. Okay? Et comment je connais le bien, et comment je suis sûr que j'ai bien connu, et que c'est d'autres problèmes. Okay? Et fais le bien, il vaut mieux. Et si tu fais le mal, repends-toi. C'est ça qui est la consigne. Mais pour ça, il faut que là, ce jour-là soit possible. Est-ce que c'est bien clair? Nous retrouvons sous une autre forme notre problème de tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enjeu d'accepter la loi comme condition du salut est un enjeu terrible. Il faut une condition préalable étant donné notre nature. Étant donné que notre nature est d'être libre, par conséquent il y a le risque de la faute, l'enjeu d'accepter la loi morale comme loi du salut implique préalablement que la tshuva soit possible. Pourquoi la tshuva nous est due comme possibilité? Parce que nous avons été créés dans la peccabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, peccabilité? Ça veut dire, les chrétiens disent nous sommes nés pécheurs. C'est faux. Nous sommes nés peccables, c'est-à-dire risquant de fauter. Pourquoi? Parce que nous sommes nés libres. J'ai bien conscience d'ailleurs de formuler cela déjà d'emblée un peu plus dans les catégories de Maïmonide que celles de Nachmanide, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et bien entendu, il faut aménager ce principe. Lorsque nous disons, c'est un grand problème chez Maïmonide d'ailleurs, lorsque nous disons que l'homme est libre, il faut savoir que cette formule ne doit pas se prendre au niveau le plus absolu. Parce que pas tous se trouvent au niveau absolu. L'homme est libre dans les conditions de son conditionnement. Nous sommes conditionnés, mais notre essence, si j'ose dire, c'est d'être conditionné dans le principe de liberté. Moi, j'ai employé un vocabulaire un peu trop compliqué. Je dis les choses un peu plus simplement. Lorsque nous entendons Maïmonide dire de façon carrée, catégorique, « Tu es absolument libre, voici le bien, voici le mal, tu es libre de choisir, et c'est toi qui fais ton destin, ta destinée. » Ça nous semble incompatible avec le monde de notre expérience. Dans le monde de notre expérience, nous savons que ce n'est pas comme ça. Est-ce que Maïmonide ne le sait pas? Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai un peu vérifié cela il y a deux fois dans l'heure de Maïmonide, cet enseignement, et tout se passe comme si, d'après ce que nous connaissons, d'après ce que j'ai pu apprendre de l'historique de son œuvre, c'est quand il était assez jeune qu'il avait écrit cela. C'est pas de l'humour, hein. Mais quand on est jeune, on est un peu catégorique comme ça. Okay. Mais le problème reste, et comme je dis souvent, il faut comprendre que Maïmonide, d'emblée, par méthode, se situe au niveau le plus haut de ce que j'appellerais une aristocratie spirituelle. Il ne parle qu'aux hommes complètement libérés, et leur dit « tu es libre ». Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, nous ne devons pas être gênés par ce contraste entre la formule théologique, l'homme est absolument libre, il est capable de choisir le bien plutôt que le mal, s'il choisit le bien, il est juste, s'il choisit le mal, il est rachat, il est méchant, alors que nous savons, sans avoir besoin de faire de la psychologie compliquée, nous savons que nous sommes terriblement conditionnés, que notre marge de liberté dépend finalement de l'équation personnelle de chacun. Ben c'est dans l'équation personnelle de chacun que cela s'entend. Est-ce que c'est bien clair? C'est que le Talmud dit d'autre part qu'on est jugé toutes circonstances connues. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme ne peut pas juger l'homme, puisqu'il ne pourra jamais juger toutes les circonstances, et que le grand principe du jugement, c'est qu'on juge les actes, on ne juge pas les personnes. Des cas exceptionnels, mais qui ne changent rien à la règle. Et donc, où j'étais? Avant la parenthèse de Maïmonide. Non? Oui, il faut donc... oui, c'est cela. La condition préalable au fonctionnement du monde, c'est la possibilité de la tchouva. D'où cela vient? Eh bien, cela vient de ce que, précisément, nous allons être donnés à la liberté pour sa finalité propre. C'est un autre sujet. Pourquoi devions-nous être créés libres? C'est un problème en soi. C'est un problème très difficile, d'ailleurs. C'est un problème en soi. Mais étant donné qu'il en est ainsi, quelle que soit la finalité de cela, alors, il en résulte que nous sommes peccables. Et puisque nous sommes peccables, il ne peut y avoir de fondement à la bonne volonté que s'il y a éventualité de la tchouva. Or, il est évident que, sur ce problème, nous avons une dichotomie absolue. D'un côté, la tradition d'Israël, de l'autre côté, toutes les autres cultures. C'est-à-dire que la seule, la Torah, a choisi la loi morale comme condition du salut, avec cette option de l'éventualité de la tchouva. Toutes les autres cultures ont renoncé à cela. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas capables de l'envisager sous forme d'hypothèse. Mais il y avait une invraisemblance telle que l'on n'a pas pu surmonter, et c'est pourquoi on s'est résigné. C'est perceptible de façon très dramatique d'ailleurs à la lecture des grands textes fondateurs des autres traditions. On s'est résigné à substituer la légalité à la moralité, et à chercher pour le comportement dans l'histoire, et à chercher une autre stratégie du salut, autre que la loi morale. Parce que la loi morale n'était pas praticable comme stratégie du salut. C'est la fameuse formule de Paul. La loi crée le péché. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça. Enfin, la loi tue parce qu'elle crée le péché. C'est la mentalité chrétienne à sa racine. Et parce qu'on n'arrivait pas à envisager la vraisemblance de l'hypothèse. Alors que là, nous avons d'emblée un texte du Midrash qui dit que c'est très simple. Il y a des conditions préalables au fonctionnement du monde, et une d'entre elles, c'est la Teshuva. Ça veut dire que Dieu a créé un certain nombre de valeurs qui sont les principes directeurs, normatifs, de ce que va être l'histoire du monde avant d'avoir même créé le monde lui-même. Simplement pour clore ce morceau d'analyse, je crois que là il y a une différence entre deux termes qui est très importante, c'est prendre conscience de soi comme pécheur, prendre conscience de soi comme peccable. Ce sont deux sentiments existentiels radicalement différents. D'un côté, vous avez le sentiment chrétien, je dirais, vous avez le sentiment non-juif, non-hébreu plus exactement, tel qu'il s'est exprimé de la façon la plus cohérente dans le christianisme, et de l'autre côté, le sentiment hébraïque. Le sentiment religieux, chez l'hébreu, c'est le sentiment de la liberté. Alors que le sentiment religieux, dans le paganisme, et en fin de compte, à la limite, dans le christianisme, c'est le sentiment qui procède de l'expérience de la faute et de la culpabilité. Et il y a là deux expériences radicalement différentes. Voilà ce que dit ce Midrash. Bereshit bara Elokim. C'est les trois premiers mots du premier verset de la Torah. Et en général, on traduit « Au commencement, Dieu créa ». Alors là, je fais appel un peu à vos capacités d'hébraïsant. Vous lisez aussi dans le même mot « Bereshit » parce que la lettre « bet » en hébreu, ça signifie aussi « avec ».« Bereshit », avec un « reshit », avec un commencement, avec quelque chose qui était déjà là, donc qui avait été créé avant le monde. Dieu créa le monde. C'est clair comme raisonnement, okay. Avec un « reshit ». Dieu, qu'est-ce que c'est que ce « reshit » Ce sont les principes, le « shoresh », la racine de ce que vont être les six jours du commencement, puis le septième. Vous allez remarquer ça tout de suite à la lecture du texte. Puisque tu es là, je vais te demander de prendre un morceau de craie et tu vas mettre en colonne des morceaux. Il n'y a pas de problème. Alors, Shisha Dvarim, retiens-les en attendant. Tu vas les mettre au tableau après. Tu les mets en colonne, comme ça. Shisha Dvarim, Kadmu le Briat Haolam. Six choses ont précédé la création du monde. Yesh Mehem Shenivreu. Certaines d'entre elles ont été créées. Ça veut dire que Dieu les a faites achever et comme condition préalable du monde. Yesh Mehem She'alu B'Mahashava Yibareot. Et certaines d'entre elles, littéralement, sont montées dans le projet d'être créées. C'est-à-dire sont à l'état de projet et doivent être réalisées par l'histoire. Il y a deux catégories donc de ce reshit, deux catégories des conditions, des valeurs, conditions préalables à l'existence du monde. Première catégorie, ceux qui sont créés dans leur perfection, si j'ose dire, dans leur réalité totale et ultime, comme conditions préalables du monde, et ceux qui sont déjà créés, mais à la manière dont un projet apparaît à l'existence, et non pas encore une réalisation. J'ai pas encore dit. Ça arrive maintenant. À Torah, mais qui c'est à Kavod ? La Torah. La Torah. Voilà. Et là, qui c'est à Kavod ? Mais. Nivréou ont été créés. La Torah, vous savez ce que c'est ? Vous avez de la chance. Et le qui c'est à Kavod, on traduit le trône de la gloire. Alors, par postulat, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est l'endroit d'où procèdent les âmes des créatures. Les âmes. Qui c'est à Kavod ? Tu ne crées plus fort, hein ? C'est faible. Alors, le Midrash nous cite des versets à ce propos. Ensuite, à Avot, les patriarches, Mais Israël, ou Beth Amikdash, ou Shemo Shel Mashiach, Alou Be Machashava Leibareot. Alors, ces quatre autres réalités, Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach, ces quatre autres réalités sont, il n'y a pas de mot en français, mais sont fait apparaître à l'existence, sous forme de projet, les patriarches, qui sont les engendreurs de la nation d'Israël. Israël, en tant que nation, c'est deux indices d'existence différents. Le monde des Avot et le monde des Banim, des Bnei Israël. Dans l'histoire, c'est la période des patriarches qui va d'Abraham à la sortie d'Égypte, et ensuite, l'histoire d'Israël après la sortie d'Égypte, l'histoire d'Israël en tant que nation. Israël, c'est la nation d'Israël. Les patriarches, c'est les engendreurs de cette nation d'Israël. Et Beth Amikdash, le temple, Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach. Il nous faudrait enfin un exposé pour chacune de ces valeurs. On va déjà remarquer la différence entre ces deux niveaux. La Torah et le Kissé HaKavod sont créés avant que l'histoire du monde ne commence. L'histoire du monde, d'une certaine manière, est à l'abri du fait que la Torah est ce qu'elle est et que les âmes sont ce qu'elles sont. Ces âmes vont être données à une histoire, selon la Torah, dans le monde. Et un certain nombre de véhicules du projet de cette histoire doivent émerger de l'histoire elle-même, et c'est Avot Israël, Beth Amidah, Shemo Shel Mashiach. C'est bien jusque-là. C'est pourquoi le Midrash dit qu'ils ont été créés sous forme de projet. Je vais dire pourquoi c'est important, je prends un exemple précis. C'est en fin de compte Jacob qui reçoit le nom d'Israël, qui devient le principe de l'identité d'Israël. Il y a là un problème pour lui-même. Est-ce qu'y a-t-il prédestination? Que parmi toutes les manières d'être homme possible, il y en a une que Dieu a décidé a priori qu'elle serait la plus privilégiée pour être l'objet de la révélation. Or, lorsqu'on suit le récit de l'histoire de la Torah depuis le premier homme, on s'aperçoit que c'est intentionnellement que la Torah nous fait suivre l'histoire des mutations de l'identité humaine de génération en génération, de telle sorte que nous comprenions qu'à partir du premier homme, une certaine lignée des fils de l'homme a fait d'elle-même ce que le mot de Yaakov, Jacob, signifie, et c'est cette lignée-là qui a reçu l'identité Israël. Le privilège d'être nommé Israël. C'est Adam, l'homme, qui en Jacob devient Israël. Ça veut dire qu'a priori, je dis bien a priori, parce qu'a posteriori c'est irréversible. Une fois que c'est Jacob qui est Israël, c'est Jacob qui est Israël. Il y a une adresse et pas une autre. La Ktovet est là, il n'y en a plus d'autre. Okay? Et même si Rome se prétend être Israël, c'est trop tard. Mais je veux dire qu'a priori, du premier homme, n'importe quelle lignée aurait pu être ce Jacob devenant Israël. Oui, quel est le principe qu'il y a là? C'est créé sous forme de projet. Qui sera ce projet? Celui qui le sera. C'est clair. Mais il y a des seuils d'irréversibilité. Et à partir du moment où c'est Jacob qui est Israël, encore une fois, il y a une adresse quelque part. Et si on veut être Israël, c'est à cette adresse qu'il faut aller, pas une autre. Il faut faire ça avec une seule adresse, pas avec beaucoup d'adresses. Alors en tout cas, là. Voilà les six valeurs qui sont les conditions de l'histoire du monde. Mais Rabbi Ahava Rabbi Ira ajoute Afa Teshuva, aussi la Teshuva. Alors tu ajoutes 7 avec une petite distance la Teshuva. Et puis pour chaque, encore une fois, pour chacune de ces versets, chacune de ces valeurs, vous le retrouvez dans le livre là, eh bien, on nous cite un verset qui nous montre bien que ces valeurs-là ont existé avant même que le monde n'existe. Donc, première anacha, première donnée, si vous voulez, la Teshuva est considérée comme une des conditions de possibilité de fonctionnement de l'histoire du monde. Je vais tout de suite confronter ce premier midrash avec, avant de continuer, et ce midrash-là est cité de façon très importante, dans un petit mais considérable livre du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTshuva, Les Lumières de la Teshuva, et qui est un livre dont je voudrais qu'une fois on fasse une année d'études là-dessus, dont le Rav Kook disait que chaque mois d'Eloul, tout le mois d'Eloul avant Rosh Hashanah, il étudiait le livre qu'il avait écrit, il l'étudiait lui-même, et il apprenait qu'est-ce que c'était la Teshuva. Et je reviendrai peut-être, si on a le temps tout à l'heure là-dessus, la Teshuva du mois d'Eloul avant Rosh Hashanah et la Teshuva des 10 jours de Teshuva après le Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, une différence de niveau. Et puis, nous allons confronter cela avec un autre Midrash, que vous a déjà cité d'ailleurs, Shmuel. Mais en fait, vous remarquez que ces six valeurs correspondent aux six jours, et la septième au septième jour, d'après le mashma du Midrash, d'après le raisonnement du Midrash. Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Kisheshet Yamim asa et Hashamim et Haaretz. Ubayom Hashevi'i Shabbat Elohim Nachash. Donc ce Bereshit, c'est la racine des six jours et du septième. Et voyez dans quel rythme, six jours plus un septième. C'est clair. Bon, là ici, du point de vue de l'étude talmudique, à proprement parler, il y a un problème. Pourquoi il a fallu Rabbi Ahava ben Rabbi Zera pour dire Achatshuva? Qu'on pourrait s'arrêter à six, mais lui a dit non, il faut ajouter le septième. Top. Ça correspond en tout cas aux sept sphirotes inférieures. Alors, je ne vous donne pas le nom des sphirotes, je vais les mettre en deuxième colonne. Simplement la dernière s'appelle Malchut. C'est important pour tout à l'heure. Vous mettez Malchut au niveau de Teshuvah. Enfin, je vous donne très, très brièvement, oralement, la correspondance. Torah, Chesed, Kisea Kavod Gevura, Ha'avot Tiferet, Israël Netzach, Bet HaMikdash Ha'od, Shemon Shel Mashiach Yesod, Eretz Teshuva Malchut. Le deuxième texte, c'est précisément à propos de la Teshuva de Caïn. C'est sur le verset 17 du chapitre 4, si je me souviens bien, de Réchit, et qui dit ceci. Vayetse Caïn milifne Hashem. Est-ce que c'est le chapitre 4? Oui. Et Caïn sortit de devant Dieu. Après que Caïn ait été jugé par Dieu, et Caïn est sorti de devant Dieu. Rabbi Chama Beshem Rabbi Chanina Barab Yitzchak Amar. Au nom de Rabbi Yitzchak, on a cité l'enseignement suivant. Yatsa Sameach. Il est sorti du tribunal qu'il a jugé. Il est sorti joyeux. Et on cite un verset dans Shemot, chapitre 4, verset 14, un verset très important parce que c'est un verset qui parle de la rencontre entre Aaron et Moïse. Et qu'on apprend d'autre part, je le signale simplement en passant, que c'est entre Aaron et Moïse, en fin de compte, que va se faire le tikkun, la restauration de la faute de Caïn et Hevel, par rapport à Hevel. C'est la réconciliation des deux frères. La tchouva de Caïn, si j'ose dire, se fait avec Aaron. J'ai parlé raccourci, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là aussi, nous avons deux frères. Et le frère aîné reconnaît que c'est le frère plus jeune qui est le véritable aîné. Aaron, l'aîné, reconnaît la primauté de Moïse. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, cette situation restaure la faute de Caïn vis-à-vis de Hevel. C'est pourquoi, pour la Kabbalah en général, la tradition en général, on verra un parallèle entre l'histoire de Moïse et l'histoire de Abel, ce que je dis là est très schématique, l'histoire de Aaron et l'histoire de Caïn, mais dans le sens de la rédemption. Caïn, finalement, a trouvé sa rédemption à différentes étapes. Une des étapes principales, c'est Aaron. Chaque fois que vous avez un premier-né tzadik, ça veut dire qu'on a progressé dans la restauration de la faute de Caïn. Est-ce que c'est clair? En fin de compte, là, le sommet, si vous voulez, c'est Aaron et Moïse, mais déjà il y a une étape très importante avec Joseph et ses frères. C'est aussi un fils premier-né, mais qui aime ses frères. Donc, c'est un sujet pour lui-même. Alors, le verset est le suivant, où on justifie le fait de dire qu'il sortit, que c'est en joie, « Inehu yotse likratra », lorsque Moïse dit « mais je ne pourrais pas arriver tout seul à faire sortir Israël d'Égypte », alors Dieu lui dit, tiens, un frère qui va à ta rencontre. Et voici, il sort à ta rencontre, verra Acha, il te verra, Vesamar Belibou. Il se réjouira en son cœur. Lorsque Aaron sort à la rencontre de Moïse, il se réjouit. Alors on rapporte ce verset au verset précédent. Lorsque Caïn est sorti, il se réjouissait. C'est clair jusque-là? Il se réjouit de quoi? Pagarbo Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme l'a rencontré à Marlo et il lui a dit Manarasa Benincha, qu'est-ce qu'il en est de ton jugement ? Amarlo, asiti tshuva venit pasharti. J'ai fait tshuva et je suis arrivé à un compromis, nit pasharti, pshara. Vous comprenez le mot de pshara ? Itril Adam Arishon m'est tapé à Halpana. Alors Adam Arishon a commencé à incliner la tête. Amar, il dit, kahi koach tshuva. Ainsi est la force de la tshuva. Vanilo et Yodéa, et moi je ne le savais pas. Miad Amad Adam Arishon de Amar. Alors, tout de suite, Adam Arishon s'est levé et a dit, Mizmour Shir le Yom HaShabbat au Yod HaShem. Il a dit le psaume du jour du Shabbat, que c'est bon de louer Hachem. Je ne reviens pas sur l'explication que vous a donnée Shmuel dans son séminaire, mais je vais lire la suite. Amar Rabbi Levi dit, à Mizmour Hazé, ce psaume, Adam Rishon Amaro, Venishtakar Medoro. Le premier homme l'avait dit, selon le midrash précédent, mais il avait été oublié depuis la génération d'Adam Rishon. C'est-à-dire, Adam Rishon a eu l'expérience que la tshuva est possible. Quoi ? Caïn. Le fait que Caïn était en sursis. C'est clair ? On va apprendre que finalement, le sursis de Caïn va réussir pour lui à l'échelle individuelle. Parce que le fait que Caïn a fait tshuva, on l'apprend dans un verset que je veux dire oralement, va yeshev Caïn be'eretz Nod, et Caïn s'installa, va yeshev be'eretz Nod, dans le pays de Nod. Or Nod, en hébreu, c'est la racine de Nad, l'exil. Il y a une espèce de contraste dans les mots. Va yeshev, et il s'installa dans le pays des nomades, Nod, Narvanad. Et va yeshev est interprété par le Midrash, il a fait tshuva. On apprendra que la faute, c'est l'exil, c'est un exil. Et que la tshuva, c'est le retour. C'est clair ce que je dis là ? La faute est comme un exil. Et la tshuva, c'est le retour. Bon.